des livres comme le Rig Veda, le Pentateuque, le Mahabharata, les grands livres sacrés, ont été écrits par des, on ne sait pas combien d'hommes, peut-être des centaines, des milliers. Plusieurs ont été écrits sur des millénaires, certainement. Le Coran est l'œuvre de Mahomet. On peut admettre qu'un livre écrit par des centaines d'hommes, des milliers, alimente la pensée religieuse de plusieurs siècles. Mais comment l'œuvre d'un seul homme peut-elle alimenter la vie religieuse de 15 siècles? Ça, c'est vraiment le premier problème. Même les évangiles sont quand même l'œuvre de 4 hommes au moins. En réalité, sans doute de bien d'autres, parce que les évangiles copiaient des apocryphes, etc. Mais enfin, même ces 4 hommes ont alimenté les schismes, hérésies et toute l'église chrétienne, selon qu'on sondait sur l'évangile de Jean ou sur les synoptiques, et même dans les synoptiques, sur celui de Matthieu ou de Luc. Là, encore une fois, il n'y a qu'un seul auteur. Par suite, dès le début, le Coran a été l'objet d'une étude passionnée et on l'a considéré toujours, on a considéré d'abord son ambiguïté et qui est alimentée par Mahomet lui-même, puisque dans la sourate qu'il présentait comme la première qu'il ait reçue, 11 ans avant l'Hégire, il écrivait que l'ange Gabriel lui était apparu et lui avait dit « Lis au nom du Dieu créateur, il forma l'homme par l'union des sexes. Lit au nom du Dieu adorable, il apprit à l'homme à se servir de la plume, il mit dans son âme le rayon de la science. » C'est-à-dire que dès le début, Mahomet se situe à la fois comme auteur qui écrit le Coran et comme homme qui lit seulement une œuvre qui lui est donnée à étudier, à lire. La tradition dit que dès son retour chez lui, il avait raconté cette vision à sa femme et à son neveu. Le Kadij, l'épouse, avait été frappé de ça comme d'un signe, donc comme d'une lecture, et dans le neveu, Ali, qui avait 12 ans, et qui sera un des grands fondateurs de l'islam, Ali avait été brûlé vraiment comme calos par cette révélation du créateur, c'est son nom, du poète, c'est son nom, c'est-à-dire que l'un, il avait bien vu une création et l'autre une lecture. Pendant tout l'islam, en fait, on se demandera, mais particulièrement pendant les 5 premiers siècles, le débat sera de décider si le Coran est un livre révélé ou s'il est la création d'un homme. En fin de compte, ça recouvre, cette dualité en recouvre une autre, parce que si le livre est révélé, il est l'œuvre de Dieu, donc il s'identifie à Dieu et il ne peut pas être modifié, le livre ne peut pas être modifié, il ne peut pas être interprété. Il est à prendre dans son sens littéral, et même dans ses lettres. Il est la création d'un homme et d'un prophète qui a eu lui-même des visions extraordinaires, bon, il peut être modifié, interprété au cours des siècles, au gré des événements. Par la suite, d'autres ambiguïtés sont venues se greffer sur celle-là. Nous verrons que... le Coran, qui répète de la première à la dernière ligne et qu'il n'y a qu'un Dieu unique, ne cesse pas de parler de Dieu différent. Il parle de Dieu adorable, Dieu miséricordieux, il parle du Dieu créateur, il parle du Dieu de sagesse, il parle du Dieu de justice. Il parlera, nous verrons, du Dieu des ténèbres, de la Vierge, du Dieu aux balances, etc. Dans sa vie même, Mahomet était lui-même de l'ambiguïté, puisque il prêchait une loi extrêmement rigoureuse, avec non seulement rigoureuse, mais très précise, par exemple dans les sanctions de chaque délit, dans la plupart des prescriptions très rigoureuses qu'impose l'islam sunnite se trouvent effectivement dans le Coran. Les 100 coups de fouet, par exemple, celui qui trahit la foi, mais lui lui-même, Mahomet, ne semble pas du tout avoir appliqué la moindre sanction à ceux qui péchaient, et à la veille de sa mort, il se félicitait de n'avoir jamais donné le fouet ou fait donner le fouet à un coupable. Un jour où il avait décidé devant un homme particulièrement, devant la résistance d'un homme particulièrement entêté, de le faire céder. Et on lui disait autour de lui, mais tu as dit que dans ce cas-là, il fallait lui couper la tête, il fallait couper la langue du mécréant, et bien coupe lui la langue, enfin montre que tu es un homme. Et ma mère dit, ah oui, il va bien falloir me décider à lui couper la langue. Donnez-lui du chameau. Oh, c'est grand du chameau. Allez, donnez-lui du chameau. C'est comme ça que tu crois m'avoir, Mahomet, de fumer. Bon, maintenant, il est enfin, dimanche. Et alors, bon, il s'abandonne, il se prosterne et il dit, bon, moi, je vais couper la langue. Donc, il y a une contradiction absolue. Il prescrit qu'un homme ne doit pas avoir plus de 4 femmes, lui, on a jusqu'à 9, on s'en étonne, et il dit, c'est que Dieu m'a permis de transgresser la loi. C'est tout. Bon, donc il n'y a pas, il y a absolument pas de possibilité de saisir quel est ce Dieu auquel il se réfère toujours comme un Dieu unique. De cette ambiguïté sort évidemment l'ambiguïté fondamentale de l'islam, c'est-à-dire que les sunnites vont s'attacher au Dieu unique. Et vont donner Mahomet comme le dernier prophète. Ils vont dire effectivement, Mahomet raconte, décrit des dieux qui ont précédé l'islam, mais il est le dernier prophète, celui qui les rassemble en un seul dieu. Et donc après Mahomet, il n'y a plus qu'un seul dieu, et nous n'en aurons que ce dieu-là. Au contraire, les chiites vont dire, pas du tout, c'est un livre créant, créatif et créable, et... Il a bien décrit les dieux qui vont succéder et l'enchevêtrement ésotérique de ces dieux, parce que l'unique qui doit venir n'est pas encore là, et Mahomet en est le premier prophète, non pas le dernier prophète d'une longue suite, mais le premier d'un dieu encore à venir. C'est très étrange parce que dans la mesure où le Coran saisit toutes les structures panthéistiques ou zodiacales, nous verrons, il est en fait le fondement des schismes, et dans la mesure où il proclame le Dieu unique, il est le fondement de l'orthodoxie sunnite. Mais en fin de compte, au cours de l'histoire, cela est complètement inversé. Parce qu'à travers tout leur ésotérisme et tous leurs dieux différents, les chiites attendent un Dieu unique, en réalité, ils n'attendent que lui. Alors que voulant n'honorer qu'un Dieu unique, les sunnites, sont bien obligés de le nommer, ce Dieu. Alors ils vont le nommer tantôt le miséricordieux, tantôt le créateur, tantôt le souverain, et ils vont en faire honorer des dieux différents. Et nous verrons qu'il y a plusieurs schismes, enfin nous en arriverons sur plus en détail. Une autre conséquence de cette dualité, c'est qu'il y a deux prophétismes du Coran. En effet, pour les chiites, pour les orthodoxes d'abord, pour les orthodoxes, Mahomet est le dernier prophète, donc après lui, il ne peut plus y avoir de parole de Dieu, il ne peut plus y avoir que des événements historiques. Donc le prophète Mahomet a décrit des événements à venir, puisqu'il ne peut plus y avoir autre chose que des événements historiques, la parole de Dieu est révolue. Au contraire, pour les chiites, Mahomet étant le premier prophète, il met fin à l'histoire qui l'a précédé et il ouvre l'avènement d'un Dieu futur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des avènements à venir. Alors pour les uns, il y aura donc une succession d'événements historiques qui s'exprimeront entre autres par les califats successifs. Premier califat, califat omeyyade, califat abbasside, califat fatimide, califat d'Espagne, califat ottoman. Pour les autres, les chiites, il y aura, les califats n'ont pas tellement d'importance, il y aura en fait les différents schismes qui ont donné des interprétations différentes de l'islam, c'est-à-dire le schisme du duodécimain, septicimain, fatimide, oriental, etc. Quelquefois, les deux coïncident à quelques années près, les premier calife s'achève en 661 comme né le schisme du Haut-Décimain. Le calife Omeyyade s'achève vers 750 et le schisme du Septicimain 756. Mais d'autrefois, ça ne correspond pas du tout. Le schisme Fatimide est de 907, le schisme Renantal est de 1094, alors que le calife Abbaside ne finit qu'en 1258, etc. On retrouve un peu là l'ambiguïté que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire comme les sunnites orthodoxes ne vont croire que dans des événements et dans des dieux successifs qui seront toujours des dieux uniques, on peut déterminer assez clairement les califats successifs, puisque ce sont en somme des événements, donc qui ont un début et une fin, alors que les schismes qui sont des ouvertures vers l'avenir, ne peuvent pas être délimités de la même façon. On connaît à peu près leur début, on ne connaît pas leur fin, puisque leur fin sera l'avènement futur. Déjà là, on voit la grande différence entre le Coran et les autres livres sacrés. C'est que dans la plupart des livres sacrés, on peut même dire dans tous, en tout cas ceux que nous connaissons le mieux, comme la Bible ou les Évangiles, il y a une partie consacrée à la foi, consacrée à la parole de Dieu, et une partie consacrée à l'histoire. Les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, racontent la parole de Dieu au patriarche, à Moïse, au roi, et ensuite, nous n'avons plus que des récits historiques, ou des récits de sagesse, etc. On va nous raconter les chroniques des rois, des juges, etc. De la même manière, dans le Nouveau Testament, les quatre premiers livres des Évangiles contiennent la parole de Dieu. Les livres qui suivent, les Actes, les Épîtres, vont en somme nous raconter la création de l'Église. Dans le Coran, les deux sont mêlés. Le Coran est à la fois ce livre dogmatique et cette histoire qui se fait. Il n'y a pas une partie qui est dogmatique et une partie qui est historique, les deux sont maintenant mêlés. Alors, ça veut dire qu'il y a dans le Coran un secret, évidemment, qui est même double, puisqu'il permet à la fois la prophétie des événements et la prophétie des événements dans la vie des hommes et des dieux différents ou des interprétations différentes de Dieu sur un autre plan. Ce secret a été constamment cherché depuis 14 siècles. Il a été cherché extrêmement loin, de manière extrêmement curieuse, d'ailleurs avec des conséquences extraordinairement curieuses. Il y en a une qui me paraît particulièrement étonnante, c'est qu'il y a plusieurs Corans tout de même, dans la mesure où il y a des sourates qui ont été, des sourates c'est les chapitres des poèmes, qui ont été supprimés à certains moments parce que bon, leur contenu gênait les califes ou les sultans. Et il y a donc une certaine variance. Le nombre des sourates 114, en tous les cas, il y a 114 sourates, mais ça apporte plus ou moins 22 000 versets. Mais quel que soit le nombre des versets, et ça c'est aussi étonnant, le nombre des mots il demeure fixe à 5 près. 77 639 ou 77 634. Et le nombre des lettres est fixe aussi à 4 près, 323 015 ou 323 019. Or, 77 634 est un multiple de 114 et de 19. 77 634 divisé par 19 comme 4086, divisé par 114 comme 681. Et 323 019 est aussi un multiple de 19, c'est 19 qui multiplie 17 001. 114 est un multiple de 19, 19 qui multiplie 6. Et 19 ans solaires sont le temps commun aux ans solaires et aux mois lunaires. C'est-à-dire que 19 ans ou 228 mois solaires, 114 qui multiplie 2, égale 235 mois lunaires ou 19 ans et 7 mois. C'est la seule durée qui permet d'unir le calendrier solaire annuel et le calendrier lunaire mensuel. Enfin, si on considère chaque sourate comme prophétique de ces 19 ans solaires, l'ensemble du corps en couvre 114 qui multiplie 19, c'est-à-dire 2166 ans, l'ère précessionnelle de Platon, de Ptolémée et des Occidentaux à s'y entrer. Pour n'en donner qu'un exemple, l'ésotérisme al-Kindi, qui a vécu au 8e siècle, déduisait de ce calcul que l'Empire arabe aurait une durée de 693 ans lunaire. En 693 ans, en 693 de l'Égypte ou 1293 de l'ère chrétienne, la 35e sourate qui porte le pressentiment de cette éclipse s'est achevée. Les Arabes ne régneront pas au-delà car déjà l'Empire turc est sorti. Alors ça, tout ça a été fait avant moi. Ce que j'ai trouvé, c'est ceci. C'est qu'il y a donc que ces certaines sourates sont déterminées par des lettres. Peut-être qu'à la fin, j'aurai le temps de vous en parler plus avant. Très amusant, mais enfin, je vais vous parler de l'islam sur le bord. Ces lettres sont au nombre de... Enfin, les ensembles de lettres sont au nombre de 29. C'est-à-dire qu'il y a 29 sourates qui commencent par des lettres. 13 groupes constituent une trilogie. 2 comportent 5 lettres, 2 en comportent 4, 9 en comportent 2. 3 signes ne comportent qu'une lettre. Sad, Kaf et N. Mais ces nombres ne signifient rien, personne n'a rien pu en tirer. Personne ne tire rien non plus des interprétations qu'on donne aux lettres. Tantôt on emploie des initiales de noms divins, tantôt on le rattache à la cabale juive, alors qu'on ne sait pas si nous reconnaissons la cabale juive. Et enfin, on n'arrive pas à déterminer souvent quelles sont ces lettres mystérieuses, parce que les versions du livre sacré... diversifie sur ce point. C'est ainsi que le kaf du persan nouveau, puis le kaf turc sont plus proches du kaf K-A-F que du kaf Q-A-F sud-arabique. Alors faut-il voir deux lettres ou bien une seule dans les diverses versions de K et de Q, kaf ou kaf. Plus tard, à partir du 18e, surtout, les traductions occidentales ont encore compliqué la question, puisque l'alphabet coranique ne comporte pas de voyelles. C'est-à-dire que A, la lettre A, Alif, est lu tantôt Alif, tantôt Elif, est traduite par A ou par E. Certains traducteurs les distinguent, comme au XVIIIe siècle, tantôt ils les confondent comme Grosjean qui vient de finir une traduction de l'islam excellente par ailleurs. Il y a également une lettre qui est quelquefois écrite Aïn, qui est plutôt le A, et ce A est confondu tantôt avec l'un des Alif, celui qui se dit Alif, et n'est pas confondu avec l'Alif qui se dit Alif. J'ai même vu des traductions qui distinguaient l'Alif de l'Aïn de certaines sourates et pas de l'A d'une autre sourate. C'est-à-dire qu'on ne peut évidemment pas savoir, apparemment, ce que signifie cela. Mais ce qu'on peut savoir parfaitement, c'est leur emplacement. Leur emplacement n'a jamais varié. Or, de la première à la 19e sourate, les lettres forment des trilogies qui comprennent la lettre L. De la 19e à la 36e sourate, des trilogies qui ne comprennent pas la lettre L. Si, je viens d'écrire ça. De la 36e à la 50e sourate, il y a des ensembles non trilogiques. La sourate 50 correspond à la lettre Q. Il n'y a plus de lettre qu'en 60e sourate où il y a la lettre N. Il y a là des ensembles évidents et nous allons voir ce que peut signifier au point de vue historique. Mais à partir de la 60e sourate, sur 114, il n'y a plus de lettres. Et là, évidemment, ça m'a longtemps arrêté, je me suis dit, bon... Si les lettres sont ce secret, elles devraient continuer jusqu'à la fin du Coran. Pourquoi s'arrêtent-elles brusquement à la 68e sourate? Et alors j'ai découvert qu'il y avait une autre clé qui prend la place des lettres. Ce sont les serments. Dans toute cette partie, on va trouver des sourates qui commencent par des serments. En fait, elle commence dès la sourate 36, il commence à y avoir des serments.
Ces salles sont toutes par le Coran jusqu'à le soir 50, et elles seront autres et de plus en plus étranges et diverses jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous avons en réalité deux clés, l'une fondée sur les lettres et l'autre sur les serments. Ces sens, je vous les expliquerai tout à l'heure, vous les comprendrez très bien, mais actuellement, ça m'arrive pas de le préciser. J'ajoute que cette figure, qui est là très schématique, très simplifiée, correspond exactement à la figure que j'ai découvert en étudiant les visions d'Ézéchiel, les idées de Platon, les catégories de Kant, les ésotérismes de l'alchimie, l'hermétisme, et même la figure de Jung, et les figures de Roussel ou Jarry, plus ou moins. De ce schéma s'est déduit le plan de mon livre. Très simplement, les trilogies, elles, vont jusqu'à l'occultation majeure de 1940, sans elles jusqu'à la grande résurrection de 1964, non-trilogie vont jusqu'à... Alors ici, nous avons des lettres de plus en plus rares, Y, S, Sad, HM, Q, N, qui correspondent à la période moderne, enfin depuis la Renaissance. Et ici, les serments se divisent entre, d'une part, les serments par le Coran, puis les 11 serments, autres que le Coran, puis les 11 derniers sourates, puis les 11 derniers versets. Et là, il est évident que ça ne peut pas être par hasard que ce schéma se... Alors, bon, enfin, nous allons voir qu'il y a une petite difficulté ici, mais on va la voir tout de suite. Si l'on admet que les sourates représentent 19 ans pour que l'ensemble du Coran représente l'ère précessionnelle, et parce que 19 est la clé de Mahomet, d'ailleurs nous verrons qu'il le dit clairement dans les sourates, chaque sourate, donc, il est facile de poser le Coran comme une grille sur l'histoire, en donnant à chaque sourate la valeur de 19 années. Les cinq premières sourates ne comportent, la première ne comporte aucune indication, aucune lettre, et en fait aucun titre, c'est une invocation à Dieu. Cette invocation est extrêmement simple et elle contient déjà toute cette ambiguïté du Coran, louange à Dieu, le souverain du monde, le miséricordieux, le maître du jugement. Nous t'adorons, nous t'implorons pour que tu nous diriges dans le sentier du salut, fleuri de tes bienfaits, le chemin de tes fidèles, préservé de l'erreur. Visiblement, ça s'adresse à un Dieu à la fois d'amour, de miséricordieux, de souveraineté et de sagesse, de jugement. Cette première sourate n'est pas signée et c'est très important parce que nous verrons tout au long du Coran, ou du moins en ce qui concerne les serments, que les groupes commencent toujours par une sourate qui n'est pas signée, qui est comme une sorte de préambule, et les sourates signées viennent ensuite, et après les sourates signées viennent deux ou trois sourates non signées qui sont beaucoup moins intéressantes que les sourates signées, et qui généralement contiennent des lois ou décrivent des événements à venir. La première sourate qui n'est pas signée, si on admet 19 ans, couvre la période de 622 à 641. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que selon la tradition, une tradition jamais démentie qu'on peut tenir pour une vérité, le Coran n'a pas été fini avant 641. En effet, l'Égypte est datée de 622, mais l'Égypte ne s'est inventée que bien après. Du vivant de Mahomet, on ne date pas l'origine. On daterait plutôt de 11 ans avant l'Égypte, s'il a de la nuit où il a reçu sa première sourate. Il meurt en tout cas en 632. Et dès sa mort, il y a un sort de conflit intellectuel Omar et non, d'abord entre Ali, le neveu de Mahomet, et le beau-père de Mahomet, Abou Bekr, qui se dispute le califat. Ali est soutenu par son épouse, qui est la fille de Mahomet, Fatima, et le second est soutenu par sa fille, qui est l'une des femmes de Mahomet, la dernière Aïcha, la demeure de laquelle il est mort. Ce duel, dans ce duel, Abou Bekr l'emporte, il est le premier calife. Il meurt assez vite, en 624, et le même duel oppose Ali à Omar, qui est déjà un parent plus lointain, et qui va mourir en 644. En fait, il y aura encore un duel, enfin de même plus âpre cette fois, entre Ali, qui est toujours là, et Othman, qui est l'autre qui s'en doit. Le troisième calife. Ces quatre hommes, Ali, Abou Bekr, Omar et Othman, sont tenus par la tradition pour les continuateurs et les organisateurs du Coran. Abou Bekr en a maintenu l'ordre et peut-être inventé l'ordre. Ali en a maintenu l'esprit. Il n'a rien créé, semble-t-il. C'est Omar qui a situé l'origine du Coran à l'Égir. L'Égir étant une date très accessoire dans la vie de Mahomet, puisque c'est le moment où il a quitté la Mecque, chassé par les habitants de la Mecque pour se réfugier à Médine. Il y a évidemment bien d'autres événements plus importants dans la vie de Mahomet. Mais Othman a choisi, c'est-à-dire que tout le calcul ésotérique que j'ai fait n'est valable que depuis l'invention d'Othman qui l'Égir. Mais enfin, ce qui est significatif dans tout cela, c'est que précisément jusqu'en 641, on ne peut pas dire que le Coran est constitué. Il finit d'être composé, construit, en tout cas, sinon écrit, construit par les successeurs de Mahomet. Un autre fait curieux, c'est que à partir de 642-660, c'est-à-dire dans la première sourate signée, et puis dans l'autre sourate signée 660-679, l'islam va s'imposer entièrement sur la terre. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y aura plus si longtemps de grandes conquêtes de l'islam. C'est dans ces deux fois 1938 ans que vont se constituer toutes les que vont s'établir. Les grands empires islamiques, par la victoire sur les Perses, la prise d'Alexandrie en 42, la domination sur la Syrie et la Perse en 44, la conquête de l'Égypte en 56, le siège de Constantinople en 70, et à partir de 680, la conquête de l'Afrique du Nord. À partir également, cette date 680 est très importante, puisque c'est le moment où va mourir le cinquième calife. Ce cinquième calife n'était plus ni un parent, ni un intime de Mahomet. C'était en fait un parent très lointain